19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Nous sommes ensemble dans votre talk show Time Sport en ce jeudi 31 octobre. Et oui, veille d'Halloween pour certains, comme chaque soir de 19h à 20h. Votre quotidien de sport, vous restez donc bien cramponné et actif. Avec vous, Charles Nétrissé, auditeur dans cette émission, vous pouvez réagir, on le rappelle, au 01 53 48 3000, mais aussi sur la tutosphère pour réagir avec toute l'équipe. Au menu de l'émission, Monaco qui enfonce l'Olympique de Marseille 2 buts à 1 hier soir en Coupe de la Ligue. Benjamin Benmoyel, notre invité ce soir, ancien sportif de très haut niveau et fondateur de l'Apollo Sporting Club. Liverpool, les Reds qui éliminent les Gunners d'Arsenal au terme d'un match de folie dingue, mais aussi le Barça pro Neymar, sans oublier le match Brest-Paris Saint-Germain. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, on sera avec Marion Aidalo qui sera de la partie. Achille aussi est avec nous.
Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices.
Et Yacine Bouali, comment ça va? Ouais, on se rapproche un peu plus du micro.
Bien sûr.
On aimerait t'entendre.
Même si je suis loin du micro, le cœur y est.
Eh oui, voilà. Comme d'habitude.
Azulf Laouane, encore une fois. Ah. Bonsoir à tout le monde,
pour
mes chers auditrices et auditeurs de Beurre FM.
Allez, un petit clin d'œil à la réalisation, la personne de Yanis. Mais on n'oublie pas le plaisir d'être Kamel Aïd Kaira. Comment ça va, Kamel?
Ça va très bien, Bilal, merci. Et puis un bonsoir à nos auditrices et nos auditeurs. Et il est super ton costume d'Halloween, Bilal.
Ouais, merci. Ouais. Des tacles à la gorge, normal. Ça fait des tacles comme ça, mais c'est parfait. Allez, nous, on prend la direction du Rocher, la principauté.
Time Sport, le ras-le-bol.
Dans le choc de la soirée, Monaco a tranquillement disposé d'un OM sans idée. Trois jours après sa déroute du côté du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille s'est incliné donc face à Monaco lors des 16e de finale de cette fameuse Coupe de la Ligue avant sa suspension. Augustin et Aguilar ont fait la différence en première période avant qu'un but contre son camp de Lecomte ne relance le suspense. Avec désormais une seule victoire contre Strasbourg, 2 buts à 0 sur leurs 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on le rappelle, les Marseillais déjà humiliés au Parc, 4 buts à 0 dimanche dernier, sont-ils en crise? On l'écoute, Achille.
Non, ils ne sont pas en crise. Hein. C'est pas une découverte. Hein. D'un point de vue sportif, non, l'équipe n'est pas en crise. C'est juste que je sais même pas comment l'expliquer. C'est le même groupe. Il y a très peu de joueurs disponibles. Le coach fait avec les moyens du bord. Ils perdent 2-1 à Monaco. Compétition Coupe de la Ligue. À peine 3 jours après avoir pris, pour rester poli, une rouste au Parc des Princes.
Ouais, face à ses paris.
Pour moi, c'est pas inquiétant. D'un point de vue sportif, c'est pas inquiétant. Par contre, ce qui est inquiétant.
Ouais, alors c'est quoi?
C'est la direction.
La direction de l'Olympique de Marseille.
Et là, vraiment, c'est inquiétant.
Les supporters s'inquiétaient déjà.
Jusqu'à preuve du contraire, Villas-Boas est tout seul.
Ouais.
Lancé dans les médias. Où est le directeur sportif? Personne ne protège le groupe, hormis le coach. C'est pas normal.
Kamel, l'Olympique de Marseille va mal. Très mal.
Oui, ils vont très mal. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Achille, mais parce que bon, c'est normal, c'est un Parisien.
Parisien, je reste objectif.
Mais bien sûr, Achille.
Moi, je suis la crise à Marseille.
Non, mais t'es gentil, hein. Je remarque ta gentillesse.
C'est la vérité. Oui.
Envers nous, moi, en tant que Marseillais.
Vous, c'est qui
Nous, les Marseillais. Avec la petite étoile sur le niveau du cœur.
En plus, j'ai le courage de le dire, quoi.
Non, j'ai pas honte de rien, moi. Et avec la petite étoile, ça me gratte, là. Excuse-moi, il y a la petite étoile qui grattait la Ligue des Champions. C'est celle que Paris n'a pas
n'aura jamais.
Je veux dire, non. Moi, je pense que c'est la crise. Pourquoi? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Au départ, il a fait une très bonne communication, Villas-Boas. Mais je crois qu'il a perdu l'or lors du Classico. Ça veut dire qu'il a, il a fait une grosse erreur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un avant et un après Classico. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la faiblesse technique du groupe, etc., ce qu'il a dit, et tout le monde était d'accord avec lui, sur ça, il n'y a pas de problème. Il aurait pu motiver ses joueurs d'une autre manière. Parce que, comme j'ai dit, un coach, même s'il il a des joueurs entre guillemets moins forts, normalement, comme un coach sportif, un coach de foot, il doit chercher la quintessence de chaque joueur, c'est-à-dire aller chercher le maximum de chaque joueur. Donc après, si vous pouvez pas appuyer sur le levier technique, vous pouvez au moins appuyer sur le levier psychologique, la motivation, et on peut transcender. Il y a des entraîneurs qui ont transcendé des joueurs moyens, et qu'une fois qu'ils étaient sur le terrain, ils les ont lâchés, c'était des piles électriques. Bien sûr. C'est ce qu'il a pas fait contre Paris, c'est-à-dire qu'il a fait passer le message à ses joueurs contre Paris, les gars, on est mort. Donc jouez comme vous pouvez. Et la preuve, il s'est sabordé tout seul en mettant en place son fameux 4-3-3 contre Paris. Il plaisante le type. 4-3-3 contre Paris, il est sérieux.
Mais là on parle de Monaco quand même là.
Ouais,
là
après on a bondi sur Monaco quand même.
Maintenant c'est pour vous dire donc comment les joueurs sont blessés, ils arrivent même pas à battre Monaco. Monaco qui est une équipe encore plus faible que Paris. Monaco a joué sans ses titulaires. Il y avait pas, heureusement qu'il n'y avait pas Slimani, il n'y avait pas Ben Yedder, il y avait carrément que des remplaçants. Ils ont perdu contre eux. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est là où on voit qu'ils ont été blessés et qu'ils sont touchés, que la bête elle est touchée elle est à terre. Parce qu'ils ont même pas réussi à battre Monaco. Moi j'ai vu une partie du match, je me suis endormi. C'est incroyable. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait rien. Et Monaco était d'une faiblesse incroyable aussi, hein. C'était pas mieux Monaco, ils étaient d'une faiblesse incroyable. Donc je pense que oui, ils sont blessés. Moi je pense qu'il y a un moment donné, je sais pas comment ils vont faire, parce que là Villas-Boas il a tué l'équipe. Le peu de motivation que les joueurs avaient, là, il leur a retiré. Moi ça va être compliqué, hein. Pour l'avenir, ça va être compliqué.
Yacine, hein. L'Olympique de Marseille avec cette deuxième défaite face à Monaco après celle de Paris, je veux dire.
Ouais, mais moi je vais rebondir un peu. Alors, sur ce que Kamel vient de dire, que Villas-Boas a tué l'équipe. Il s'est complètement raté lors du Classico. Moi, je ne vois pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 en France qui pourraient échapper à cette raclée parisienne. Quand on voit le rythme avec lequel Paris aujourd'hui déroule, c'est très compliqué. Quand on voit Marseille dans la situation où elle était avant l'arrivée de Villas-Boas, donc il a des circonstances atténuantes. Moi, la deuxième mi-temps contre Paris, je l'ai trouvé quand même. L'équipe, elle était vraiment en place. Il a réussi même à bousculer cette équipe parisienne, même si les gens disent que Paris n'a pas joué. Mais pour revenir un petit peu à la défaite
Monaco-Marseille
contre Monaco, je pense que c'est normal. Quand on prend une gifle comme celle qu'on a prise à Paris, l'équipe elle est un peu secouée. Mais après, ce n'est pas c'est pas l'objectif principal de Marseille aujourd'hui. Laissons le temps à Villas-Boas de pouvoir mettre en place sa façon de voir le football, sa façon de jouer. Mais je reste confiant car c'est un entraîneur qui connaît bien, très très bien son métier. Donc, je suis confiant pour Marseille pour les prochaines journées.
Et la prochaine journée, la réception de Lille pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1 Conforama. La pression sera déjà très forte, Achille et Kamel, sur les épaules d'André Villas-Boas et ses joueurs, et certainement plus encore sur leur direction que nombre de supporters présents à Monaco ont vilipendé après la défaite, justement, face au Monégasque. Vous en dites quoi, messieurs?
À un moment donné, c'est vrai que la direction, elle n'est pas au top du top, mais il ne faut pas oublier qu'on a les cadeaux et les squelettes de monsieur Garcia. Donc c'est vrai que c'est compliqué avec les joueurs là qui nous a vendus, qui nous a fait acheter, qu'ils arrivent même pas à avancer. Et encore, on a réussi à se séparer de Mitroglou. Sinon vous imaginez, avec Mitroglou ça aurait été waouh. Non, mais je veux dire, il est pas là, il a encore ce contrat, mais il est pas là. Et encore, on en a que la moitié, hein. Je veux dire, on a la moitié de ce joueur. Donc, je veux dire, non, il y a un moment donné, la direction, je veux bien, mais moi je reviens sur le discours de Villas-Boas. Il y a un moment donné, c'est tes joueurs, tu dois les motiver, non d'une pipe. Faut pas les envoyer en victime expiatoire. Et c'est ça le problème. Et pourquoi il n'y a pas... Yass l'a dit, et je ne suis pas d'accord avec lui, le but c'est pas de gagner la Coupe de la Ligue, c'est de gagner des matchs. C'était pas de gagner la Coupe de la Ligue, c'est de battre Monaco, qui est une équipe à notre niveau, au niveau de Marseille, même pas. Ouais. Et ça, il n'y a même pas eu ce côté de rentrer sur le terrain et de
voir. Ouais, conquérant un peu, c'est ça.
Non, pas ce côté, alors qu'ils ont pris une rousse. Dernièrement, ils devaient dire, bon, on doit se racheter pour nos supporters, pour montrer que c'était un accident, entre guillemets. Et je les ai vus, mais au bout d'un quart d'heure, j'ai changé de chaîne.
Il y avait un autre match assez intéressant aussi, on en reviendra. Achille.
À un moment donné, il faut être réaliste. Pendant 45 minutes au Parc des Princes, Marseille a pris une déculottée. Ils ont explosé physiquement. On a bien vu après, le Paris Saint-Germain a levé un peu le pied. Marseille a tenu un petit peu le ballon. Bon, c'était pas trop grave. Mais derrière, ils enchaînent Monaco. Qui puisait Monaco, une équipe remaniée. Mais quand tu vois Keita Baldé, à ce que je sache, c'est quand même un international. Il revient de l'Inter. Jean-Kevin Augustin, il sort d'où? De Leipzig. C'est pas non plus rigolo. Aguilar, c'est un des meilleurs latérales droits du championnat de France depuis un certain nombre d'années. Quand tu vois, il y a quand même Fabregas sur le terrain, Adrien Silva. Tu peux pas dire que l'équipe de Monaco, c'était une équipe
pas de plaisantin, quoi.
Voilà. Je pense juste que Marseille a tout simplement explosé physiquement parce que depuis le début de la saison, Villas-Boas ne compose quasiment qu'avec un groupe de 15 15-16 joueurs maximum.
Il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix, mais justement. Et c'est pour ça que.
Il est en train de. Je vais te couper, il est en train de recoudre les morceaux.
Oui, petit à petit.
Que Gaga.
Oui, Rudy Garcia a laissé.
Rudy Garcia a laissé. Peut-être aussi le mauvais travail qui a été fait.
Oui, c'est ça.
Par Zubizarreta, par l'administration. Aujourd'hui, je pense qu'il a besoin de
trouver besoin de temps. Voilà, il a besoin de temps, c'est ça.
De trouver ses repères surtout et de savoir comment fonctionner. Parce que Marseille, ce n'est pas un club comme les
comme
autres.
Les autres,
c'est un club particulier. Parce qu'il y a une grande assise populaire et il n'a pas le droit de se rater. Parce que si Villas-Boas se rate à Marseille, ça va être compliqué pour lui de remonter plus tard.
Il
est obligé de prendre à cœur. Sa mission à Marseille.
Non, mais je pense que on termine avec Achille pour donner la parole à Kamel.
C'est la Coupe de la Ligue. Il faut remettre les choses dans leur contexte.
Ouais.
C'est un mal pour un bien. Marseille aura moins de matchs à jouer avec un effectif.
Mais il n'y a que ça à jouer.
Réduit.
Après la Coupe de France.
Ah bah, et Coupe de France et championnat.
C'était une solution pour jouer une Coupe européenne, Kamel.
Il n'a pas tort.
C'était quand même un match qui était à ta portée. Après, encore tu rencontres Lyon, etc. Je comprends. Mais là, c'est un match Monaco. Tu me dis Baldé, il est remplaçant quand il y a Slimani.
Ouais, mais c'est un effectif de 70 joueurs.
Non, mais Baldé.
Donc, il y a la possibilité de faire tourner. À Marseille, c'est pas le cas.
Achille.
Alors,
mon ami, si au mois de fin octobre, début novembre, t'es fatigué, va faire du jardinage.
T'as bien vu l'état de forme de Payet.
Non. Payet, c'est un état de forme, c'est qu'il est pas sérieux dans son entraînement physique. Mais si les joueurs de Marseille sont fatigués fin octobre, qu'ils aillent faire du jardinage.
Encore
ils me disent.
Vous demandez des conseils à Dilrami, c'est ça?
Non, encore ils sont fatigués. Février, mars, je veux bien. Mais octobre, la saison, elle vient de commencer. Donc c'est physiquement, avec tout ce qu'il y a, ils sont au truc. Allez, ça, c'est la cueillette des. Bientôt, ça va être la cueillette des champignons, qu'ils y aillent.
Et c'est super.
Ouais, c'est super. C'est ce qu'ils ont fait dimanche dernier. Ils ont été cuire les champignons, les Marseillais. Et pendant ce temps, les Parisiens, ils jouaient. Voilà, donc, non, je pense qu'il y a un moment donné, c'est que il m'a tué, Villas-Boas. Il nous a tué. Quand il a fait sa conférence de presse en disant non, le classico, on s'en fout. On veut gagner contre Lille. Mais il va pas gagner contre Lille. Il les a tués. Il aura retiré le peu de substance. Il y a un moment donné, c'est des agneaux, tu dois en faire des lions quand ils rentrent sur le terrain, quel que soit leur niveau. Et tu me dis.
Donc si Marseille gagne 5-0 à Lille, tu dis quoi?
Je dis rien.
Merci.
Je dis rien. Ah. Que tu veux que je te dise quoi? Ils vont être champion de France?
Et reçoivent Marseille. Ils reçoivent Lille, justement. Samedi, 17h30, du côté de l'Orange Vélodrome.
Je suis contre Lille, je le dis. Je suis supporter Marseille contre Lille, ils vont perdre.
Aïe, ça sera une crise totale, peut-être.
Comme c'est parti,
à l'approche de ce match.
Et je suis supporter Marseille.
Samedi, face à Lille, Yacine.
C'est Kamel quand même.
Extrêmement dur.
Je comprends aussi. C'est un Parisien. Qui a retourné ses vestes pour supporter Marseille.
Oh, ben.
Ça va rien. C'est une émission humoristique ou quoi? C'est un sport ou c'est TP?
Allez, un peu de sérieux là. On laisse tranquille nos confrères de TPP. Il est où Cyril Hanouna? On passera le bonsoir à Cyril Hanouna. On le laisse tranquille. Kamel, arrête. On est sur bref.
Kamel est trop dur avec Villas-Boas.
On revient aux moutons. Marseille face à Lille aussi ce samedi.
Ah, c'est le match à ne pas perdre.
Ouais.
Parce que s'il perd le match contre Lille, je pense que les choses vont être complètement différentes et les séjours seront comptés à Marseille.
Et un nouvel entraîneur, c'est ça?
Ah, ça, ils n'ont pas le choix.
De surcroît, on parle de Lille.
Alors,
après, il y a Lyon.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est là où.
En enchaîne, c'est vrai, avec Lyon,
c'est d'être extrêmement compliqué. Je pense que les deux prochains rendez-vous.
Je vais placer. Vous avez toujours vos taxis d'Algérie. Je pense. Ce qui est le profil idoine pour Marseille,
c'est Jamel Belmadi.
Exactement, mon cher ami. C'est Belmadi qui. Mais franchement, c'est l'entraîneur qu'il faut à Marseille.
Ah, si, un peu de sérieux,
malheureusement, il est encore en sélection algérienne. Et on le garde. Je pense pour aller le plus loin possible lors de la prochaine Coupe du Monde en 2022.
Au Qatar. 2022, justement,
mais
ça promet.
Mais c'est un profil à la Jamel Belmadi qu'il leur faut.
Avant d'accueillir Benjamin Benmoyal, justement, notre invité de ce soir, on va terminer sur l'Olympique de Marseille. Mais il faut vraiment se mettre dans la tête que ça va pas à Marseille, Kamel. Plus sérieusement, c'est incroyable ce qui se passe du côté de la Calebière.
Moi, ce qui m'inquiète le plus, tu vois, Bilal, dans le sport de haut niveau, et notre invité me dira pas le contraire.
Non, t'inquiète pas, on va le faire enchaîner dans le football.
Dans le football, on peut faire des erreurs techniques, on peut passer à côté d'un match. C'est faisable. Mais il y a une chose qui doit être fondamentale, c'est l'envie. c'est la niaque. Comme je disais, contre Paris, on perd 4-0, on a zéro carton jaune. Je le disais, le carton jaune dans le football, c'est l'émanation d'une, frustration, d'une envie, d'une parce que vous perdez, vous jouez dur, etc. Mais c'est dans le football. Là, on avait zéro carton jaune. Ça veut dire qu'en fin de compte, on n'avait aucune envie. Et contre Monaco, quand j'ai vu le match, j'ai commencé à regarder le match, il n'y avait aucune envie contre une équipe qui était de notre niveau, qui était même plus faible que nous. C'est ça qui me fait peur. C'est pas tant qu'on marque pas de but, etc. C'est cette envie qui me fait peur. Et quand vous allez jouer contre Lille qui est une belle équipe et qui a de l'intensité, comme Lyon, et pour une fois, j'aurais aimé que Silvino soit l'entraîneur de Lyon, peut-être on aurait battu Lyon.
Ouais.
Mais quand vous allez rencontrer Lille, là, au match, on va rencontrer Lille au Vélodrome.
C'est ça, ce samedi.
Lille, ça va à 300 km/h.
Ça va vite. Hein.
Donc nous, il nous manque ça. C'est-à-dire, dans le football, c'est ça qui est important, c'est l'intensité que tu mets, quel que soit ton niveau. Et là, on ne l'a pas mis. Eh, c'est Baldé!
Achille nous avait dit de faire attention à cette équipe lilloise.
Les Italiens, ils leur ont envoyé l'hélico presto à Monaco, tellement il est fort. Ah oui, monsieur Achille.
On termine sur ce Marseille-Monaco et on passe à l'invité de ce soir.
Time Sport.
Benjamin Benmoyal, ancien sportif de haut niveau, comme je le disais dans cette introduction de l'émission Time Sport, membre de l'équipe de France Élite de Savate Boxe Française, il faut le rappeler, et athlète de l'INSEP entre 97 et 2007, et fondateur aussi de l'Apollo Sporting Club. Tant de choses à dire. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir à tous.
Et comment ça va? Merci pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM en personne avec nous. Comment êtes-vous passé de sportif à entrepreneur?
Après ma carrière, j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années et j'ai travaillé dans le milieu ordinaire du travail pendant 10 ans. Et j'ai monté donc avec mes deux associés du moment qui sont aussi mes cousins, donc l'Apollo Sporting Club, pour vivre d'un métier passion, de pouvoir essayer de monter un business en famille et de pouvoir vivre vraiment quelque chose qui me passionnait depuis toujours. Moi, je pratique la boxe depuis 30 ans. Elle coule dans mes veines, j'ai grandi avec. Elle m'a tout donné, j'ai voulu continuer à travailler en fondant l'Apollo Sporting Club, qui est aujourd'hui un concept très différent et qui cartonne aujourd'hui à Paris.
Justement, à quel moment vous vous êtes penché sur l'après-carrière avec vos cousins, avec votre famille? Parce qu'on le sait, le Noblard, c'est toujours comme ça. C'est une histoire de famille, en quelque sorte.
Absolument. Alors, la décision s'est prise assez tôt, parce que dans ces années-là, on vit pas aujourd'hui du sport de haut niveau à petite échelle, donc c'est pas évident, donc il faut vite penser à l'après-carrière, donc on a fait tous des études pour ça, on est parti travailler, mais l'idée est venue assez vite au final de pouvoir enchaîner sur un projet entrepreneurial.
Justement, on a des clubs, l'Apollo que vous avez créé, ça commence à sortir, là il y en a pas mal, notamment la semaine prochaine, hein, je crois que dans Paris 17, il y aura un nouveau. Ce lieu est-il exclusif, justement? Que pourrait-on y trouver, mis à part des rings ou des sacs de boxe, mais encore?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Apollo Sporting Club, c'est le premier club en France qui pratique aujourd'hui le cours de petits groupes. Donc, nous, on pratique le sport avec un coach, toujours pour moins de 10 personnes, pour avoir une approche personnalisée. On connaît nos élèves, on les voit évoluer, on les fait progresser. Ils sont encadrés par des professionnels du sport. Et nous, on favorise donc le format de petits groupes pour pouvoir accompagner ces gens à la pratique sportive. Et je précise, la pratique sportive pour tous et la pratique de loisirs.
Oui, c'est une réaction avant la pause, avant de revenir avec Benjamin.
Ma réaction, c'est que je pense que notre invité a tout compris ce qu'il faut faire aujourd'hui, surtout dans les sports de combat. Quand on voit la self-défense, comment elle s'est développée, ils ont démocratisé la boxe. C'est ce que je pense. Ils l'ont rapproché, ils ont pris aussi le concept de la préparation de haut niveau. Parce que vous avez un coach pour moins de 10 personnes, ça devient vraiment... Mais c'est ouvert pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, personne n'est exclu.
C'est ça.
Je pense que dans ça, je pense qu'il a trouvé la bonne formule au moment.
Et l'exclusivité, comme on le disait.
Est-ce qu'aujourd'hui...
Alors,
on va rebondir
après. On va rebondir après la pause. Il reste avec nous, Benjamin Benmoyal, justement, de l'Apollo Sporting Club. Vous restez donc bien à l'écoute. Et les questions sont les bienvenues, avec plaisir, au 01 53 48 3000. Là-dessus,
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Time Sport avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, on nous écoute à travers le monde, mais aussi de l'Hexagone, sans oublier Saint-Étienne, les Stéphanois, le 94.3, et Troyes aussi, 94.3 encore, et ou sinon, Valence dans la Drôme, le 107 FM. N'oubliez pas de télécharger l'application sur les téléphones portables, et aussi le numéro du standard, le 01 53 48 3000, pour réagir avec toute l'équipe de Tam Sport, 19h-20h. On est ce soir avec Benjamin Benmoyal, fondateur de l'Apollo Sporting Club. Et la question, elle était de Yacine. On lui repose ?
Ouais, allez. Ouais, bah, je reprendrai sur la question pour Benjamin. Quand vous avez démarré au démarrage, est-ce que vous avez sollicité les pouvoirs publics pour vous apporter une aide ?
Alors non, pas du tout. Au début, on voulait monter simplement un projet de copain. On voulait simplement une salle pour s'entraîner avec nos amis dans Paris et sur nos fonds propres. On a acheté un petit local dans Paris de 80 mètres carrés. Il faut imaginer que ce local, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de porte d'entrée, il n'y avait pas de vitrine. C'était un intérieur de cour d'immeuble et dans lequel on a construit une salle de boxe. Ouais. Il faut imaginer que dedans, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien. Mais on faisait du sport, voilà, avec nos amis. Et petit à petit, le bouche à oreille a fait son travail, des amis, d'amis. Puis on s'est vite retrouvés débordés. Il faut imaginer qu'au début, ce projet-là, ce n'était pas un projet pour travailler, c'était un projet pour se faire plaisir, mais par la force des choses, au regard du nombre, en quelques mois, on s'est retrouvé plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. On n'était pas du tout préparé à ça, et c'est là qu'on a décidé de monter vraiment une boîte.
Justement, Benjamin, on en ouvre pas mal maintenant des clubs de boxe, mais le vôtre, d'où vient le nom Apollo?
Alors, c'est une référence exactement, ouais, à Apollo Creed. On est tous
fans de Rocky.
Ouais. On a tous grandi en se levant la nuit en regardant les matchs de boxe aux États-Unis et pour nous ça coulait de source. On aimait bien le personnage un peu fantasque d'Apollo et on s'est dit que ça nous collait bien de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Bah c'était Apollo et ça nous correspondait bien.
Ouais, comme elle réaction avec Benjamin.
J'ai deux questions. Alors, il y a une chose qui me taraude, c'est moi si demain j'ouvre une salle de boxe sans fenêtre, sans rien. Il n'y aura pas 1000 personnes qui viennent. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu autant de succès?
Alors, c'est surtout ce format de petit groupe, ce format convivial à un coach pour 10 personnes. C'est vrai que c'était très novateur en 2010 en France. Il faut imaginer que nous, on fête déjà nos 10 ans. Et à ce moment-là, ça n'existait pas de pouvoir faire du sport sur ce format-là. Et je crois que c'est ça qui a plu par rapport au marché traditionnel du sport où on voit des salles surchargées. Ouais. C'est là que la différence s'est faite. On a aussi un modèle économique qui est très différent. Quand toutes les salles de fitness nous proposent des abonnements à annuel à 39€, 49€ par mois et on est prélevé à chaque fois. Il faut imaginer que ces salles-là, en fait, elles font leur argent sur des gens qui ne viennent pas. Le principe, c'est que vous venez de 3 mois, 4 mois, vous n'êtes plus motivé, vous venez plus, mais vous payez quand même. À l'Apollo, la différence, c'est que nous, on est sur une offre sans engagement. On ne paye que quand on vient. Et pour reprendre la métaphore sportive, pour le coup, le côté abonnement, nous, on trouvait ça pas très fair-play. Ouais. Au contraire, nous, à contrario de ces salles-là, nous, on encourage la pratique et la régularité des membres, plus je viens et moins c'est cher.
C'est sympa.
Vous avez donné, c'est-à-dire vous avez donné le choix à la personne. Complètement. C'est-à-dire quand on veut faire du sport,
de s'adapter
On prend la décision de partir. Clairement. C'est-à-dire quand on décide de payer, ça veut dire on a envie de faire du sport. Et ça, je pense, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que. Ça a beaucoup plu.
Alors, on termine avec Kamel et on aura aussi Achille pour terminer.
Moi, je veux savoir, quand vous ouvrez des nouvelles salles, vous les ouvrez vous-même ou vous les mettez en franchise? Vous appartiennent ou vous les franchisez?
Alors, excellente question, Kamel. Il faut savoir que nous, on est propriétaire donc, de 4 salles Apollo à Paris. Et on vient de monter ce qu'on appelle une tête de réseau de franchise. Donc, on est en train de développer ce réseau. Et on a ouvert il y a un an et demi notre première salle en franchise, donc dans le 77, donc sur la commune de Céris, dans l'agglomération du Val d'Europe. On leur passe le bonsoir et je tiens à féliciter Amri et Flavien qui sont les responsables du site et qui ont fait un travail formidable en un an et demi, et à tel point que ça a tellement bien marché qu'ils ouvrent leur deuxième franchise en 2020.
Ah bah félicitations, c'est bien.
Alors parce que c'est important. Alors,
parce que j'avais une question aussi.
Parce qu'aujourd'hui, peut-être au niveau des auditrices ou des auditeurs, il y aurait des gens qui seraient intéressés par ouvrir une franchise. C'est combien le coût d'une franchise?
Alors aujourd'hui, on est sur un
tarif. Toujours accès business, Yacine.
Absolument. On est sur un tarif de 30 000 euros TTC, donc pour l'achat de la marque et de la franchise. Et ensuite, une royalties, donc sur les revenus générés par la salle de 7%.
Mais c'est quoi l'accompagnement que vous offrez aux gens?
Alors c'est un accompagnement total. D'ailleurs, nos franchisés pourraient témoigner. Ça va de la recherche des locaux, l'accompagnement bancaire, la centrale d'achat de matériel, le recrutement des coachs si besoin. 1. On est là sur un accompagnement total de gens qui auraient envie de vivre de leur passion, mais qui n'auraient jamais eu l'opportunité business de pouvoir le faire.
Il se passera, alors justement, on va avoir un événement, c'est la semaine prochaine, concernant cette magnifique salle qui va, voilà, qui va faire, où vous allez mettre une nouvelle, voilà, un nouveau club dans le 17e arrondissement de Paris, si ma mémoire est bonne. Hein, ça sera le mercredi 6 novembre.
6 novembre, c'est ça, 19h30, ouais. Au 5 Square Villarette Joyeuse, à proximité de l'avenue de la Grande Armée.
Sportif, adhérent. Comment ça va se passer?
Alors, il y a beaucoup de gens qui sont sollicités, donc des membres du club, des amis, des personnalités du monde de la boxe, les pouvoirs publics, beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui pour fêter tout ça. On va être très nombreux, donc n'hésitez pas à venir. Si vous êtes dans le coin, vous êtes le bienvenu pour venir boire un petit coup avec nous.
Oui, comme une réaction, et on aura
Achille. Par rapport à la franchise, vous avez un cahier des charges, bien sûr.
Absolument, on a un manuel de savoir-faire qui donne aujourd'hui toutes les orientations possibles pour les franchisés, à savoir de ce qu'il faut faire pour avoir les bonnes pratiques pour ouvrir une salle Apollo. Et au-delà de ce manuel, c'est surtout l'accompagnement qui fait la différence. Il faut imaginer qu'en 2020, on va clôturer, avant la fin de l'année, une dizaine de dossiers en Île-de-France et en province. Donc on est vraiment en train d'exploser. Et on a après d'autres dossiers tangents. Mais pour le coup, on est vraiment sur un gros, gros boom de la boxe en ce moment.
Ouais, je vais rebondir sur ce que je disais, parce que moi, j'avais essayé de. Bon, je suis un ancien, j'ai fait moi de la boxe américaine il y a longtemps. Et là, récemment, comme j'ai arrêté le foot, je voulais faire de la boxe anglaise. Et je suis allé dans une salle qui est très, très réputée. Donc l'entraîneur entraîne. Et ça, quand je suis rentré, sur l'entraîneur principal qui entraîne quand même un niveau international, s'occuper de ces deux ou trois champions, et il y avait un entraîneur qui s'occupait, il avait au moins 40 ou 50 gamins. On a l'impression que c'était la foire. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, moi je vais pas là-dedans. Il va s'occuper de 40, là c'est de la garderie, c'est pas de la boxe.
Comme elle est repartie.
Alors,
mais c'était vrai.
Dans une salle de boxe traditionnelle, c'est vrai que le champion, c'est la vitrine. C'est vrai que c'est la première chose qu'on voit. Chez nous, c'est totalement l'inverse. En fait, la vitrine, c'est la personne qui démarre. Aujourd'hui, il faut imaginer que dans nos salles, dans l'ensemble de nos salles, on accueille près de 20 nouveaux tous les jours qui veulent faire de la boxe. On a déjà 5000 personnes qui se sont inscrites sur notre plateforme en ligne sur le courant de l'année 2019. Et tous les jours, il y a 20 personnes qui aujourd'hui s'inscrivent
pour faire
de la boxe et qui veulent découvrir ce sport. Et
on va rester dans le business. Combien le coût réel, combien ça coûte pour venir faire de la boxe chez vous?
Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on est sur un tarif horaire avec une formule d'essai de 10 € de l'heure. Donc, une heure de sport pour 10 € pour tester 3 heures de cours. Et ensuite, nous vendons des packs de crédits de cours dégressifs, des heures de cours. Plus vous en prenez beaucoup et moins c'est cher à l'unité, avec un prix qui oscille entre 15 € et 7 € de l'heure en fonction du pack que vous avez choisi.
On termine cette interview avec toi, Achille.
Et vous avez combien de salles sur Paris? Où est-ce qu'elles sont situées?
Alors, on a aujourd'hui 4 salles dans Paris, dans le 3e arrondissement, le 11e, le 19e et prochainement le 17e.
C'est ça, à côté d'Achille.
On est déjà ouvert pour le coup, mais l'inauguration sera mercredi.
Voilà, merci d'avoir m'avoir vendu. C'est gentil, merci, ouais.
Voilà, et puis cette franchise, la première franchise, donc Oval d'Europe, à Cerise, dans le 77.
C'est sympa. Okay. On termine.
Où est-ce qu'on
peut te retrouver?
Alors justement,
revenir à la franchise, le coût global pour démarrer l'activité.
Avec les travaux, il faut compter un billet aux alentours de 80 000 à peu près.
C'est pas un billet, c'est de l'argent.
C'est un investissement. Mais quand même. Mais là, tu interviens comme quoi? En tant qu'entrepreneur, toi aussi, tu veux quoi? Tu veux ouvrir des coms?
Non, mais ça donne des idées.
Surtout dans la boxe, bien sûr.
Ça donne des idées.
Ça donne des idées à tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Rapidement, Achille, peut-être avec Benjamin.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Alors sur Internet.
Sur les réseaux sociaux.
www.apollosportingclub.com ou sur les réseaux sociaux, effectivement, Apollo Sporting Club Paris.
Merci, okay. Benjamin, il reste avec nous tout au long de cette émission. Direction la Catalogne.
Time Sport, la victoire.
On va faire plaisir à une certaine Marion Hidalgo. Tout pour Ney. Gérald Piquet affirme, nous étions prêts à retoucher nos contrats pour que Neymar revienne. Trouvez-vous cet amour immodéré pour Neymar, logique et raisonnable compte tenu de leur versatilité du joueur capable de prendre des décisions que seul lui peut comprendre? Marion, on t'écoute.
Je trouve que ça en dit long sur le Barça, moi, beaucoup plus que sur Neymar. Je trouve que on a l'impression qu'ils ne se remettent toujours pas de l'absence de Neymar, un peu comme on regrette une femme ou un deuil. Enfin, je trouve ça un peu ridicule de la part des Barcelonais. J'ai l'impression vraiment que depuis de ce départ à cet été où vraiment on a senti que certains Barcelonais y croyaient vraiment, pensaient vraiment que les Barcelonais allaient remettre 200 millions sur Neymar alors qu'ils venaient d'acheter Griezmann. Enfin, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils arrêtent vraiment et qu'ils se concentrent sur d'autres choses. Je suis étonnée qu'un garçon comme Piqué, qui a tellement de talent, qui est tellement pourtant un joueur plutôt intelligent, ne parle pas toujours de l'avenir et de tant de talent qu'il y a en Espagne, toujours à se concentrer sur Neymar et sur Neymar. J'espère vraiment que dans d'autres clubs, comme le Paris Saint-Germain, le jour où un joueur comme Kylian Mbappé, par exemple, partira, j'espère qu'il n'aura pas un deuil de plusieurs années de cette manière-là. Ça parce que je trouve ça un peu ridicule.
Ouais, Achille.
Non, mais c'est une aberration totale, en fait. C'est une aberration. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont prêts. Et il le dit publiquement qu'ils sont prêts à baisser leur salaire pour faire venir Neymar. Mais c'est des malades mentaux.
Non, mais
c'est-à-dire
pourquoi
à Barcelone, non, mais en Catalogne, il y a des gens qui meurent de faim pour lesquels ils pourraient faire ce type de geste. Et là, oui, effectivement, ce serait tout à fait louable et totalement compréhensible. Mais quand on voit que Léo Messi gagne 50 millions d'euros par an, vous voulez baisser son salaire pour que qui Neymar y vienne.
Bien sûr.
Mais moi, je trouve que franchement, c'est magnifique parce que ça prouve
la solidité.
Bah, laisse-moi terminer mon propos.
Alors justement, laisse Kamel.
Oui, Kamel, vas-y.
Ben oui, vas-y Kamel.
On peut plus parler dans cette émission.
Mais non, Kamel, vas-y.
Bilal, fais quelque chose.
Ouais, oui, Kachi, quand même.
Moi, je trouve que pour une fois, on a toujours dit que les footballeurs étaient des égoïstes. Là, pour une fois qu'il y a une solidarité entre les joueurs qui veulent baisser leur salaire pour faire venir l'un de leurs compatriotes.
Il n'y a pas de solidarité pour Dembélé ou pour Griezmann. Là.
Venant de Piqué, Marion, tu sais très bien que c'est un coup pour Griezmann aussi. Hein. C'est sympa.
C'est
une punchline pour Griezmann.
C'est bien. Mais en début de saison, c'est intelligent. Aussi,
Vu l'intelligence qu'il a lui aussi, il le mérite. Mais bon, je pense que.
Pourquoi il le mérite? Il est champion du monde. Pourquoi il le mérite? Pourquoi toujours dire du mal de Griezmann?
Parce qu'il n'a pas été. Il n'a pas été. Il n'aurait pas dû venir dans cette galère. C'est ce que je veux dire à Marion. Il n'aurait jamais. Il n'aurait pas dû venir dans cette galère. Et comme il avait un ego surdimensionné, il s'est dit qu'il pouvait s'imposer. Mais bon, bref, ça c'est autre chose.
Le Barça se refuse pas aussi.
Oui, exactement. Oui.
Un joueur comme Griezmann, c'est d'aller au Barça.
La preuve, il l'a refusé une première fois.
C'est le Barça qui se refuse pas ou le banc de touche du Barça.
Bon, ça leur fait du bien d'avoir un champion du monde. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu plusieurs champions du monde.
Oui.
À une époque, il y avait Xavi, il y avait Iniesta. Bon, c'est bien maintenant, ils ont Griezmann. Ça leur fait du bien.
Ils peuvent aussi faire venir Giroud aussi, c'est un champion du monde. Donc,
pourquoi pas? Ça leur mettrait un peu de force, un peu d'ossature aussi au Barça.
Il y a une solidarité des joueurs barcelonais, c'est magnifique pour une fois que ça arrive. Les footballeurs soient solidaires, pour dire Barça. Mais moi, je pense que c'est plus un coup de com' et puis pour piquer un peu le Paris Saint-Germain avant les rencontres.
On écoute Benjamin concernant le Neymar et aussi le Barcelone.
En tant que supporter du PSG, c'est vrai que j'étais très attristé de savoir qu'il souhaitait partir typiquement, mais c'est vrai que.
Ouais.
On est face à une grosse machine. Le Barça, c'est une référence aujourd'hui.
Grande Europe, voire du monde.
Voilà, donc c'est compréhensible si lui ne se sentait pas très bien. Bon, après, j'ai cru comprendre que c'était en train de changer tout ça. Donc, j'espère qu'il va essayer de s'épanouir à Paris, en tout cas. Ça me
pourquoi pas ouais. Ouais, Yacine.
Mais aujourd'hui, c'est...
Neymar, le Barça,
c'est tous ces joueurs. C'est tous ces joueurs sont prêts à cotiser pour le faire venir, qu'il le fasse. Je pense que le PSG veut bien... sur Neymar, aujourd'hui ils ont l'équipe
PSG avance sereinement.
Avance sereinement sur Neymar. Quand on voit Neymar, il est présent sur. Il y a 10 mois dans l'année de compétition. Neymar, des fois, l'année passée, et je n'ai pas calculé le nombre de jours de sa présence au PSG. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais bien que ces mecs-là qui est Piqué, Messi, tout ça, c'est comme tu prends.
Mais quand même, c'est vrai que c'est, je rejoins un peu Achille même.
Non, mais aujourd'hui, le PSG, ils l'ont acheté à 100 millions. Ben aujourd'hui, ou à 200 millions, et qu'ils le vendent à 400 millions. C'est ça, c'est le business.
À 400 millions, il n'y a que Mbappé aujourd'hui. Non, mais je crois qu'il.
Qu'on s'en débarrasse.
Il est vaut.
Il veut retourner. Il veut retourner
personne
au
n'a
Barça.
Les moyens.
Ouais, et aussi, ouais,
il veut plus rester à Paris. Il ne veut pas rester à Paris. Bah, qu'il s'en aille. Parce que le fait que ces deux joueurs se sont prononcés.
Les joueurs sont versatiles.
C'est que derrière, parce qu'ils communiquent tout le temps entre eux. Et Neymar ne sait jamais. Et Messi. Ne s'est jamais caché de sa relation avec Neymar.
Il voulait terminer à
Barcelone.
Non, mais Piqué doit s'occuper de son club là qui l'a acheté il y a quelques temps de cela.
Un businessman et, aussi, Piqué.
Qui doit s'occuper de ses affaires.
Ouais, mais Achille,
de sa famille,
Achille,
de Piqué, des conneries de
ouais,
ce
mais Achille, Piqué,
non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles.
Il
faut arrêter parce qu'il y a quand même des socios.
l'argent, il en fait ce qu'il a envie.
Bah, il avait qu'à sortir 200 millions pour recruter Neymar.
Mais je pense que Marion l'a dit et tout le monde le sait. Piqué, c'est un businessman, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc s'il a dit ça, c'est pour titiller le PSG avant sûrement les futurs 8e de finale ou quart de finale. Parce que PSG, ils ont toujours la. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais à chaque fois, ils tombent toujours sur Barcelone. Mais je pense que voilà, non, c'est fait exprès pour titiller. Il a voulu mettre de l'huile sur le feu, c'est aussi simple que ça.
Petite dédicace à faire à des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent ce soir en la personne de Praline, Mimi, sans oublier Malek et Junior. Une courte pause et on reviendra avec de la Première Ligue.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie, toujours en compagnie de Marion, sans oublier Yacine, Kamel, Achille et Benjamin Benmoyal de l'Apollo Sporting Club. Et oui, qui est l'invité de ce soir de cette émission qui est Time Sport, comme chaque jour, du lundi au vendredi. Liverpool qui élimine Arsenal.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, match de fou, on l'aura compris, un match de dingue. Kamel aura zappé après le Monaco-Marseille. Et il aura regardé, je crois, le Liverpool-Arsenal. C'est bien ça, Kamel, hein ?
Bilal, c'est de la folie ce match.
Eh oui, de la folie. 7 anonymes, 8e de finale de League Cup entre coiffeurs un mercredi dans une froide soirée d'automne. Eh oui, aura donc débouché l'un des matchs les plus fous, Yacine, de la saison déjà. Essence même de l'esprit offensif de la Première Ligue, ou match particulier. Oui, il est d'accord aussi, l'invité. Dû à la présence de nombreux et jeunes rookies. On écoute Achille et on donnera la parole à Benjamin aussi.
Ouais, c'est un match à l'image de la Première Ligue. Hein. C'est tout
en
ça.
Début. La Première Ligue, voilà. Si on a l'impression qu'on voit du spectacle toutes les semaines à la Première Ligue, je ne suis pas d'accord.
Yacine, c'est pas parce que tu es déguisé en joker que tu dois interrompre
Halloween ce soir.
Je l'interromps parce que on parle tout le temps de la Première Ligue, on a l'impression qu'on voit toutes les semaines des grands matchs.
Mais bien sûr, des grands matchs avec de grands joueurs, Yacine. Riyad Mahrez.
Hier, il fallait zapper sur Real Liganes.
Non, mais je crois que. Voilà. Je coupe la parole à Achille, je coupe la parole à tout le monde. Non, mais la Première Ligue, c'est ouf en ce moment. Mais en plus, je pense que l'Angleterre aussi, à l'Euro, peut nous surprendre. Il y a un retour du foot anglais qui est exceptionnel. Et vraiment, je trouve que ton histoire de Real Leganés avec un Real claudiquant et un Leganés, c'est une catastrophe. C'est reparti sur Karim Benzema. J'en peux plus.
On le met dans le tiroir et
on voit la différence de moyens.
C'est des effectifs de
20 à 30 joueurs assez jeunes d'un certain niveau. Et aujourd'hui, quand on les lance, on voit le résultat. Ce qui n'est pas le cas des clubs français, et ce qui est vraiment très regrettable,
c'est
la vérité. J'aimerais juste m'inscrire en faux par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que les clubs anglais ont les moyens, mais hier c'est pas les stars. Liverpool, il y avait aucune star, il y avait Origi et Miller, c'est tout.
C'est ce que je dis.
Laisse-moi. Ça veut dire que quand tu fais rentrer ces joueurs, c'est la mentalité, Achille. Ouais. Tu fais rentrer des jeunes comme ça. Ils ont joué à 100 km/h. Chez nous en France, déjà, tu fais rentrer les titulaires. La seule truc avec la Ligue 1, Conforama, Pizza, Uber Eats, Pizza Hut, tout ça. Ils jouent les joueurs. Ils ont qu'une obsession, c'est pas prendre de but. Là hier, tu vois des jeunes.
C'est la faute aux joueurs,
Kamel.
C'est la faute aux entraîneurs, Kamel.
Ah oui, aux entraîneurs, aux joueurs. On a vu un match où les minots. Les petites, que ce soit de Liverpool, Arsenal, ils ont joué, mais un match de folie, 4-1, 4-2, 4-3, et des buts magnifiques. Et 5-4, 5-5 dans les arrêts de jeu. Mais franchement, vive l'Angleterre.
Benjamin,
vive la reine Elisabeth.
J'adore Liverpool, je suis un grand fan de Liverpool. C'est vrai que même s'il n'y avait pas de stars sur le terrain, on voit qu'il y a une vraie formation, il y a un vrai esprit de se projeter vers l'avant. On n'est plus dans le football de possession comme a pu évangéliser le Barça. On est vraiment dans un nouveau football avec Liverpool. Ouais. Et Jürgen Klopp, il a une vraie vision du foot qui se projette et qu'on voit que même les remplaçants, ils ont respecté ces principes de base-là. C'est magnifique.
Jürgen Klopp, c'est pas Tourelle.
C'est vrai qu'il a regardisé le football barcelonais. C'est vrai, vraiment. Et c'est très agréable. Moi, je trouve que cette intensité du football anglais, moi, je trouve pas que les jeunes soient tellement exceptionnels. Je trouve juste qu'ils ont une intensité incroyable. Mais c'est normal, la Ligue 1 et le 4e ou le 5e championnat du monde, la Première Ligue, le premier. Donc, il faut pas comparer avec le match de Monaco hier soir. C'est incomparable. Et non, ce qui, est sûr, c'est que
Marion, on peut pas comparer.
Parce que c'est pas les mêmes moyens financiers.
Arrêtez qu'on nous parle des moyens financiers. Parce qu'en France, les entraîneurs, quand ils rentrent, ils rentrent pour ne pas perdre. C'est la seule et unique raison dans le football français. C'est, ne me dites pas, les meilleurs joueurs du monde sont...
C'est ce qui fait aussi qu'on a des meilleures défenses aussi.
Le plus grand potentiel de football, c'est en Île-de-France. On ne laisse pas les joueurs... On ne donne pas l'opportunité aux jeunes de jouer.
Regarde ce que fait Mbappé. Il faut arrêter de dire qu'on ne laisse pas les joueurs d'Île-de-France jouer.
En France, on n'est pas friand du football total.
C'est pas dans la culture française.
On est champion du monde en 98, champion du monde en 2018. En 2000, on est en finale en 2016, on est en finale de la Coupe du Monde en 2006. D'où la France n'est pas rapide football.
On a des grands défenseurs.
C'est un football
long. Point quand même. C'est la première ligue, c'est 2 milliards de droits télé. Le dernier de première ligue, le 20e, gagne autant que le PSG.
Achille, on parle à l'état d'esprit.
PSG qui est champion de France.
Oui, oui.
Achille, de ce moment-là.
Mais c'est pas le problème.
En ayant ce type de moyens-là, vous pouvez vous permettre d'acheter et de ramener des coachs avec des philosophies extrêmement offensives, comme Liverpool a pu le faire et comme Arsenal peut le faire avec Emery, et pouvoir changer les mentalités, qu'il y ait du football offensif et que vous ayez au final des résultats
je vais juste expliquer quelque chose.
Alors c'est quoi?
Tu regardes, moi j'ai regardé le match, Liverpool Arsenal, j'ai regardé tout le match et les pénalités, c'est moi j'aime le foot, le vrai football, et après je reviendrai sur l'équipe de France et t'as raison en partie Marion. Regarde, quand il y avait 4-2 pour Arsenal, 4-3, 4-4, 5-4 pour Arsenal. Klopp, il avait le sourire, il était là, il motivait. Oui. 5-5, il a fait le gamin. Il était heureux à ça. Tu fais la même chose. Tu poses la question à des clubs français. Je préfère perdre 1-0 que gagner 5-4 parce que j'ai fait 5-4. Et maintenant, Marion, par rapport à l'équipe de France.
Les moyens. Financiers, il l'a dit, Achille.
Maintenant, Marion, tu as raison. Quand on parle du football français, moi, je parle de la Ligue 1. Parce que n'oublie pas que les Coupes du Monde qu'on a gagnées et les championnats qu'on a gagnés, c'est avec des joueurs à l'étranger.
C'est ça.
La plupart. Mais moi, je parle de l'ADN de la Ligue 1. Je parle pas du football français, l'ADN de la Ligue 1. La Ligue 1. Parce que il y a tous les jeunes qui ont joué. Liverpool et Arsenal, c'est que des joueurs du centre de formation, hein. C'est des minots, hein. C'est pas des Salah, c'est pas des Mané, c'est ça. Et ils ont joué. Il y a du déchet, mais c'est que par l'avant.
On était ensemble au stade, on a regardé, il y a le tournoi de Val-de-Marne, de U16.
On a regardé
France-Belgique. T'as vu les jeunes belges? T'as vu l'équipe belge, comment elle se projette vers l'avant? Ça a été de l'offensif. Et l'équipe de France, on a vu l'impression qu'ils avaient le frein à main.
Benjamin.
Et c'est pas le potentiel qui est manqué.
Allez, on écoute notre invité.
Pour avant de donner la parole à Marion. Ce qu'on a vu, en fait, c'est la force du schéma.
Ouais.
Le schéma, l'état d'esprit de Liverpool. C'est-à-dire qu'à l'entraînement.
Pertinent, ça.
C'est comme ça qu'ils apprennent le foot. Ils voient le foot dans cette vision-là. Le vision vers l'avant. La personne qui rentre sur le terrain, quand elle fait ça à l'entraînement et qu'elle calque le modèle de Salah, de Mané, elle se projette vers l'avant. Et c'est vraiment ça, l'état d'esprit, l'identité de jeu de Liverpool.
Ouais, Marion, on t'écoute.
Oui, alors c'est vrai que c'est beau le football vers l'avant. C'est vrai quand ça se projette vers l'avant, quand on est spectateur, on aime voir ça. Mais attention, parce que ça, c'est vaut pour quelques équipes de Première Ligue. Mais il faut voir dans quel état est Manchester United, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les défenses anglaises restent assez faibles. Combien de défenseurs anglais pour le niveau d'un Hollandais comme Van Dijk à Liverpool? Je veux dire, nous en France, on a quand même. Alors je sais, ça paraît d'être un petit peu genre. Ah, mais nous en France, on fait des choses bien. Mais oui, on ressemble plus à la Serie A, c'est vrai. On a toujours été plus défensif, c'est vrai. Mais c'est moins agréable pour le spectateur. Mais il n'empêche que. Moi, j'aime bien les belles défenses. Moi, je suis impressionnée par l'Inter de Mourinho en 2010. J'aime effectivement. Ça me dérange pas qu'il y ait le bus. Si le bus est beau, hein. Attention, hein. C'est pas le bus toulousain.
C'est pas un bus bulgare ou polonais, quoi. Un vrai bus avec de la clim.
Voilà, exactement. Un beau bus. Pas un bus toulousain.
Le bus du PSG est très très beau. Il est magnifique.
Mais il n'y a pas de bus pour l'instant. Donc on verra, malheureusement.
Ouais, pourquoi pas. On va arriver à ce bus. Oui, il y a un bus du Paris Saint-Germain. Vous allez voir, vous allez comprendre. La dernière rubrique.
Time Sport, le mode pressing.
Je suis assez sérieux, Marion. Tu verras tous les billets pour Brest-PSG, match de Ligue 1 Conforama programmé le 9 novembre prochain, vendu en 3 minutes. Et oui, le PSG de Tour Chaud, on peut l'appeler comme ça, continue de déployer sa caravane ou son bus, comme le disait Marion, et son grand barnum de production spectacle. Vous êtes d'accord? Eh ben, vous nous le faites savoir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TimeSport, ou peut-être avec Kamel. On t'écoute, Kamel.
Même
et Benjamin.
Même Céline Dion, elle a mis plus de temps pour vendre ses billets. Elle les a vendus en 7 minutes.
C'est incroyable, faut dire la vérité, c'est assez incroyable.
C'est incroyable.
Non, mais vraiment,
Mais ce que disait Marion tout à l'heure, et moi ce que je dis par rapport à la Ligue 1, il y a un moment donné, si ça avait été une autre équipe de Ligue 1, il n'y aurait pas eu ça. Parce que PSG, on peut dire ce qu'on veut, il y a des joueurs de foot, il y a des vrais joueurs de foot. Et les connaisseurs de foot, ils vont, Brest, c'est la fête pour eux, ils reçoivent les joueurs, Mbappé, Cavani, Icardi, etc. C'est ça, avant d'être supporter d'une équipe, on est supporter du football. C'est ça que je veux dire. Moi, demain, là, quand les droits TV, moi, que ça soit PSG, moi, je suis supporter de Marseille, mais quand je vois PSG des vrais joueurs, j'adore. Merci les Qataris de nous faire venir des Neymar, etc. Je suis un passionné de football. Je suis pas là dans mon Porsche. Je dirais non, j'aime pas. Non. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que, là, les droits TV, là, ouais, quand ils vont passer chez Media Pro, et ben moi, je suis un
confrère,
j'adore le football. Mais j'achèterai pas les droits TV, je paierai pas un euro pour voir cette Ligue 1 avec Toulouse, avec Bordeaux, c'est hors de question.
Merci, Kamel. Benjamin, on l'écoute, le PSG.
C'est formidable d'avoir une locomotive comme le PSG.
Ouais.
On voit aujourd'hui dans n'importe quel stade de province les placeurs
en prix
d'or, et puis de voir des joueurs comme ça pour tout le football français, tout le public français, c'est formidable de voir des joueurs de niveau international.
Le football français, ça nous fait devenir encore plus un pays de vrais footballeurs. Ouais, n'est-ce pas, Marion?
Oui, absolument, mais je dirais aussi que on est en train de se rendre compte grâce à cette belle génération, cette génération PSG, qui a plein d'enfants, plein de jeunes qui sont des supporters du PSG, qui arrivent et qui sont des supporters du PSG. Donc ça m'étonne pas tellement finalement qu'en 3 minutes ça a été vendu. C'est pas uniquement pour des gens de nos âges qui se disent tiens, je vais aller voir du beau football, je vais aller voir Cavani, je vais aller voir Mbappé. C'est aussi des enfants qui disent papa, je vais aller supporter Mbappé, même si c'est un petit breton. Et moi c'est ça qui me plaît, comme dans les années 90 avec l'OM. Comme au début des années 2000, mine de rien, avec l'OL, moi je vois parfois des jeunes gens de 20-21 ans qui me disent moi je suis supporter de l'OL. Je me dis toujours mais pourquoi de l'OL alors que t'es savoyard ou que tu es de Biarritz? Et ils me disent parce que je les ai vus gagner, quoi.
Voilà. Ouais, et Achille, on termine.
Ouais, pour la petite anecdote que j'ai vue il y a quelques heures de ça, le PSG vend de plus en plus de maillots sur la cité phocéenne.
Oui, absolument.
Ouais. Donc ça annonce.
Est-ce que c'est vrai, ça?
C'est annonciateur.
Oui,
ouais, c'est
annonciateur.
C'est vrai.
Il y a tant de vendus
à Marseille. Bon, je vois pas beaucoup. Hein.
Il faut c'est pas balancer de l'information, il faut donner les statistiques.
C'est très annonciateur.
Donner les statistiques parce que pour les Marseillais.
C'est très annonciateur de.
Pour les Marseillais, c'est pas.
On laisse terminer, Yacine.
Que l'impact du PSG a sur le football français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on prend la catégorie 15-35, le PSG, c'est le club numéro 1. C'est le club le plus
à quelle échelle? C'est ce que j'aimerais savoir, parce que honnêtement, dans les rues de Marseille, quand je me promène quelquefois,
augmente ses ventes et ses recettes de maillots dans la cité phocéenne.
Marseille et son agglomération, si je peux me permettre. Parce que ça,
donc,
c'est grand.
C'est pas surprenant qu'en l'espace de 3 minutes, une petite ville comme Brest, c'est l'événement de l'année.
Et je prends tous les paris que si un jour il y a un club corse qui revient en Ligue 1, ça sera la même chose. C'est quand même des coins de France assez planqués quand même. Brest, c'est de l'autre côté. Donc effectivement, quand il y a un spectacle comme ça. Si, ça a à voir.
Aujourd'hui, quand le PSG rend visite à n'importe quel club, il fait.
Pas en 3 minutes, mais à Lyon, ça sera pas en 3 minutes.
Ouais, mais
à Marseille, ça sera pas en 3 minutes. Ouais. Brest,
c'est encore grave, mais à
l'effet géographique, il est là, évidemment qu'il est là. Évidemment qu'il est là. Brest est à l'autre bout de la France, évidemment. Je prends tous les paris que si à Bastia, à Bastia, ils avaient applaudi une saison pastorée, l'année où Pastore est arrivé. Donc ce que je raconte, je ne le raconte pas sorti d'un chapeau, mon cher Yacine. C'est bien réfléchi.
Allez, cette semaine, la semaine prochaine plutôt, le 6 novembre, il y a un événement pour l'Apollo Sporting Club,
oui,
en la personne de Benjamin, on rappelle.
L'inauguration de notre salle du 17e, donc mercredi 6 à 19h30 au 5 Square Villaret de Joyeuse, Paris 17e. Toutes les infos sur www.apollosportingclub.com.
Et un grand merci. On y sera, voilà.
À Marion,
voilà.
On sera invité,
j'espère. Évidemment, tous le bienvenu.
Et bien sûr, et aussi à Kamel. Un grand merci aussi à Abdenour et toute sa famille de nous avoir écoutés depuis l'étranger. Et sans oublier, joyeux anniversaire à Pia, notre auditrice. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.